L'envolée, toujours à Lyon pour suivre le procès de l'évasion de Moulin de 2009. On est mercredi 16 avril. On a écouté auparavant la plaidoirie de Lombroso, l'avocat de Top, dont on a parlé précédemment. Là, on passe aux plaidoiries des seuls avocats, en fait, qui ont fait un travail d'avocat pendant ce procès, à savoir Maître Delphine Boiselle et Maître Bernard Ripert, qui défendent tous les deux Christophe Kider au moment depuis son évasion, voilà, et avant même. Alors, on commence par, en fin de matinée, Delphine Boiselle prend le micro et commence, en fait, en s'approchant du jury, au milieu de la salle, d'une voix assez impressionnante à ce moment-là, à la fois douce et ferme, à raconter sa vision du dossier, quoi.
Donc Delphine, c'est quelqu'un qui connaît bien Christophe, hein. C'est quelqu'un qui l'a déjà défendu, c'est quelqu'un qui est une avocate militante comme il y en a peu, c'est quelqu'un qui prend pas d'argent sur cette histoire comme Bernard Ripert prend pas d'argent sur cette histoire, c'est quelqu'un qui défend les prisonniers, quoi. C'est quelqu'un qui mouille sa chemise pour faire un travail que peu d'avocats font.
Il connaît le dossier.
Et qui connaît le dossier, et qui travaille, et qui défend son ami.
D'une certaine
Qui
manière.
défend, en tout cas, pas un client, ça c'est sûr, puisqu'il ne prend pas d'argent, et c'est quelqu'un qui défend une personne, en tout cas. C'est pas quelqu'un qui défend sa manière d'être un avocat devant une cour et dans le petit milieu de la justice, et qui fait des bises au procureur, et qui copine avec le juge, et qui se fait mousser elle-même, machin. C'est quelqu'un qui défend la personne qu'elle défend. Ce qui est assez rare pour le souligner. Et donc, elle commence, en fait, ils se sont un peu séparés le travail, Christophe et
Donc Bernard Ripert.
Delphine et Bernard. Et elle est vraiment sur Christophe, sur qui est cette personne dont on parle. Et elle commence en disant cette chose qui est fondamentale, c'est que Christophe, c'est peut-être quelqu'un qui est désespéré, c'est peut-être quelqu'un qui n'a rien à perdre, mais c'est pas quelqu'un qui est prêt à tout. En tout cas, au moment où on parle, à savoir l'évasion de 2009, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir, mais c'est pas quelqu'un qui est prêt à tuer. Et ensuite, elle dit, bon. Elle dit pas on m'a coupé l'herbe sous le pied, mais nous on a très bien vu que tous les gens qui l'ont précédé chez les parties civiles et le parquet ont essayé de lui couper l'herbe sous le pied. Elle dit bon, vous allez me dire je vais parler de prison, mais en fait si je parle de prison c'est pas pour faire pleurer Marabout, je parle de prison parce que la personne dont on parle, ce qu'elle connaît c'est la prison. C'est quelqu'un qui a été condamné à 28 ans, à une peine de 30 ans, c'est-à-dire une peine qui était plus longue que la vie qu'il avait déjà menée jusque-là, quoi. Donc si elle va parler de prison, c'est parce que elle va parler de quelqu'un qui a passé sa vie en prison. Comme si on parlait d'un routier, on parlerait des autoroutes. C'est. Enfin.
17 ans,
17 ans.
17, les 17, 18 dernières années non-stop, puis avant ça, une peine de 3 ans
Avec.
au CJD entre l'âge à l'âge de 16 ans. Donc oui, on peut dire que pour quelqu'un qui a 42 piges aujourd'hui, la prison, c'est la vie.
Bah ouais.
Voilà. Mais c'est pas la vie dans le sens du procureur. Voilà.
Bon, et puis voilà, elle rappelle deux, trois évidences aussi sur Christophe, c'est que c'est quelqu'un qui a pris 58 ans de prison, et que aujourd'hui on demande d'en rajouter encore 20 à ces 58 qu'on lui a déjà collés dans la tronche. Et ensuite, elle passe quand même à ce truc qui nous a tous choqués, qui était vraiment très pénible à voir, c'est que en fait, on a eu affaire à des avocats des parties civiles qui se sont servis des propos de leurs clients, enfin, même pas qui se sont servis en fait, qui les ont déformés, qui ont trahi les propos de leurs propres clients pour
Non, pas
raconter.
des parties civiles, des avocats de la défense.
Non, des parties civiles,
Ouais.
vraiment. C'est-à-dire, les parties civiles, ils étaient très emmerdés, parce qu'ils avaient affaire à des gens qui disaient que ils avaient en face d'eux des humains, en fait. Tous les gens qu'on a vus, ils ont raconté le bon moment qu'ils avaient passé avec Christophe, en vérité. Enfin. Ou en tout cas, comment Christophe avait un vrai souci du fait qu'il n'était pas en train de prendre des. Il traitait pas des otages, il traitait des êtres humains. Et ça les a beaucoup gênés, les parties civiles, parce que normalement, ils. Bon, voilà. Donc elle a dit quand même c'est aberrant, enfin, on a affaire à des avocats qui disent autre chose que ce que disent leurs clients quand même. Et après, par ailleurs, les avocats de la défense ont fait exactement la même chose. Hein.
C'est ça.
Donc voilà, elle a défoncé cette histoire de syndrome de Stockholm qui a couru à longueur de temps. Le syndrome de Stockholm, c'est l'idée que quand on est pris en otage par quelqu'un, au bout d'un certain temps, on est tellement soulagé que cette personne nous ait libérés qu'on finit par embrasser sa cause.
Voilà.
Elle a dit non, mais c'est pas ça qui se passe. Ils ont eu affaire à un homme et ils reconnaissent qu'ils ont eu affaire à un homme. Du coup, elle égrène tous les exemples de ça en fait. Même elle ressort tous les témoignages de toutes les parties civiles qui montrent ça. Et du coup, elle dit, bah effectivement, enfin, quand Christophe dit vous êtes tombé au mauvais endroit au mauvais moment, c'est peut-être choquant d'entendre ça, mais en fait, c'est la vérité, c'est sa vérité vécue à lui, et en fait, c'est la vérité des faits aussi. Il était dans une fuite en avant. Il était dans une fuite en avant, lui, il voulait s'en aller, quoi. Du coup, effectivement, il a rencontré des gens sur son chemin, et c'est pas de chance pour eux, mais
parce que là, elle répond à cet endroit-là à un truc qu'avait dit le procureur, sur lequel on n'est pas rentré en détail. Qui disait c'est inadmissible de dire et d'entendre dans un procès que des gens tombent par hasard sur la violence des monstres et des gens qui se servent d'eux comme des outils. Voilà. Et donc là, elle répond il n'y a pas que ce soit inadmissible ou admissible, c'est juste ça ce qui se passe. Voilà.
C'est que de fait, on vit tous dans une société et que si on vit dans une société barbare qui se permet de tuer des gens alors qu'ils ont 20 ans. Peut-être, il se peut qu'à certains moments, la barbarie se retourne contre la société. Cette société est peuplée d'individus, des individus qui n'ont pas forcément choisi que cette société soit violente. Mais en l'occurrence, ils se reprennent quelque chose qu'ils acceptent le reste du temps en pleine gueule. C'est pas de bol, mais c'est comme ça. Quoi.
Sans les incriminer. Ces gens-là ne sont pas effectivement, à un moment, pris en otage. Hein, et donc, contre leur gré, ça va contre ce qu'ils avaient prévu de faire à ce moment-là dans leur vie. Ça déstabilise leur quotidien, ça peut avoir un impact sur eux, impact qui est vraiment à relativiser dans la mesure où il s'agit jamais de violence physique et jamais de traumatisme autre que ce fameux syndrome post-traumatique qui a été rabâché aussi au cours du procès, qui a une espèce de grand fatras de psychologie de comptoir qui permet de mettre sur le même plan quelqu'un qui aurait croisé les évadés pendant une demi-seconde à la portière de sa voiture à qui ils ont piqué la voiture, et quelqu'un qui aurait passé 6 heures de cavale avec eux dans une voiture, ou quelqu'un qui fait son travail tous les jours de maton et qui se retrouve à avoir des gens qui lui pètent une porte à la gueule et qui s'en vont, quand bien même ils ne sont pas dans cette pièce, mais qui se constituent partie civile quand même. C'est ça le fatras du traumatisme.
Mais c'est Scomar, une fois de plus, le grand punchliner a répondu à je sais plus quel salopard d'avocat des parties civiles, qui lui disait « Vous vous rendez compte, monsieur Top, que vous avez bousillé une vie ?» Et Top, il répond « Mais en fait, j'ai volé une R19. »
J'ai bousillé la vie de personne.
J'ai pas bousillé la vie de qui que ce soit, j'ai volé une R19. Donc voilà, et par ailleurs, elle dit « Ces gens sont tombés au mauvais endroit au mauvais moment, et Christophe est le premier à le regretter, c'est-à-dire c'est le premier, lui, à porter, à nouveau, comme s'il n'avait pas assez de poids à porter sur ses épaules, c'est lui, de nouveau, qui porte le poids et qui l'accepte, des souffrances qu'il a infligées aux gens. Sauf que pour Kider, en l'occurrence, contrairement aux gens, et en fait on en a vu par ailleurs, on va pas cracher plus que ça sur les victimes, mais il y a des victimes qui sont vraiment scandaleuses, qui sont pas des victimes. Lui, ce qu'il dit, c'est se trouver dans l'action, c'est-à-dire ce que j'ai vécu à ce moment-là quand j'étais dans l'action, pour moi c'était quelques secondes comme un être humain. Voilà. Ces gens, ils ont eu une expérience douloureuse, parfois violente, un peu remuante et machin, mais en fait, ces gens, le reste du temps, ils ont l'occasion de vivre. Pour lui, c'était ce moment-là où il était vivant.
Et c'est pas pour rien qu'il en profite pour tchatcher dans la bagnole pendant 5 heures avec un des otages qui est là.
Il est content de discuter avec des gens qui vivent dans la vie.
Qui n'est pas un maton, qui lui ouvre et qui lui ferme la porte, comme il connaît depuis 18 piges, en étant enfermé 23 heures sur 24, en ne fréquentant et en pouvant croiser que la tête de gens qui sont là pour l'enfermer.
Et donc, voilà, elle répète encore ce truc qui nous a tous frappés, qui a frappé tout le monde, qu'il n'y avait pas de haine, en fait, chez les victimes, la plupart du temps, que la plupart des personnes qu'on déposait à la barre n'avaient pas particulièrement de haine, voire même que ce monstre qu'on essaye de nous présenter, c'est quelqu'un qu'on décrit comme s'arrêtant un petit moment dans la campagne avec un de ses otages, entre grosses guillemets, c'est quelqu'un qui respire, qui touche un arbre, qui frotte l'herbe, qui goûte à chaque seconde de liberté qu'il a réussi à voler à l'administration et à l'État, quoi. Et donc voilà, elle dit, quand les procs se permettent de présenter Kidar comme un monstre, ils salissent ces moments, en fait. Ils osent salir les vrais moments que Christophe a partagés avec des gens qui reconnaissent qu'ils ont vécu des moments avec lui. Monsieur Dubois, qui s'est fait kidnapper pendant 6 ou 7 heures avec sa voiture, il a passé un bon moment. Vraiment. Enfin, il en parle comme j'ai rencontré quelqu'un. C'est pas possible de dire autre chose, en fait. C'est ça qui s'est passé. Et puis après, elle rappelle que quand même, pendant l'audience, il y a eu des vrais échanges, en fait, entre le box et la barre.
Qu'a essayé de disqualifier par avance aussi les procs, enfin, parce qu'ils
Bien
ont
sûr,
essayé de disqualifier.
bien sûr. Et elle dit, voilà, bon, elle rappelle aussi ce qu'a dit cet expert là, que c'est pas parce qu'on est poli, gentil, prévenant, agréable, intelligent, qu'on est forcément quelqu'un de manipulateur. Peut-être on est juste poli, gentil et prévenant, en fait. C'est possible d'être ça, même si ça fait 20 ans qu'on est en prison. Et elle dit, voilà, ce type-là, c'est un type sincère, quoi. Et donc c'est un type sincère, même quand il dit à un flic, en fait, t'as essayé de me tuer, tu veux même pas l'admettre. Ça fait que la prochaine fois, s'il s'agit qu'on se retrouve l'un en face de l'autre, moi je te tuerai. Et ça, voilà, c'est de la sincérité absolue. Donc, ce mec qui se permet de dire à un flic, la prochaine fois je te tue, quand il dit à quelqu'un qu'il a pris en otage, je suis vraiment désolé de t'avoir fait du mal, il a rien à gagner, ce mec, en plus, hein, par ailleurs. Enfin, il sait qu'il va prendre 20 ans. Donc, il joue pas au grand jeu des excuses, du théâtre et machin. Elle dit, voilà, effectivement, c'est pas une figure romantique, c'est pas un évadé, c'est pas un héros romantique, parce que tout le monde, les avocats des parties civiles, le parquet, machin, ont tous essayé de renvoyer ça. Ce que je pense par ailleurs était sans doute un message aussi adressé aux gens qui étaient là dans la salle pour soutenir Christophe, comme si on était des écervelés qui admirent les figures romantiques qui s'évadent. Mais en fait, nous, on n'est pas en train d'admirer des figures romantiques, on est en train de soutenir quelqu'un que toute la machine étatique essaye d'écraser parce qu'il a osé leur faire un doigt d'honneur, un bras d'honneur. Nous, on n'est pas dans le romantisme, absolument pas. Nous, on a vu des hommes, on regarde des hommes, on n'est pas en train de s'imaginer des grandes histoires.
On va regarder des histoires et c'est des histoires de gens qu'on rencontre et qui sont pris dans une machine. Point.
Voilà, bon, après, elle rappelle ce truc quand même évident, que ces procs dégueulasses qui se permettent à la fois de ressortir des vieilles idées pétainistes, comme quoi on serait dans un monde où il faudrait de la liberté, de l'égalité, de la sécurité plutôt que de la fraternité. Elle leur dit, bon, vous n'avez qu'à rester dans ce monde-là, c'est votre problème en fait. Si vous avez envie de vivre dans ce monde-là, vivez-y. Mais en fait, vous mettez des années de prison alors que vous ne la connaissez pas, la prison. Et moi non plus, je la connais pas, la prison. Elle ment pas là-dessus. Elle connaît pas la prison, elle sait pas ce que ça veut dire. Elle dit, bon, les surveillants, limite, eux, ils connaissent la prison. C'est vrai. Sauf qu'eux, ils rentrent tous les soirs chez eux, quand même, quoi. Et donc, il n'y a personne qui peut savoir, dans cette salle, à part quelques soutiens qui l'ont vécu déjà, ce que ça veut dire qu'une porte claque sur ta tête, le soir, tu vois, et que t'es saisi par une angoisse, tu sens les murs, et t'as l'impression que t'es dans un sarcophage, t'es dans un cercueil, on est en train d'enfoncer des clous dans ton cercueil. Elle dit voilà, ça, il n'y a personne qui peut prétendre connaître ça à part les gens qui l'ont vécu. Donc, quand vous condamnez quelqu'un à une peine qui est plus longue que sa propre vie, comment vous pouvez demander à quelqu'un d'accepter ça? Comment vous pouvez demander à un être humain d'accepter ça? Lui, il voulait pas tuer, il voulait s'évader de cette histoire. Il voulait sortir de ça. Il estime qu'il a donné 20 ans de sa vie à l'État pour payer une dette. Lui, il pense pas du tout en termes de dette, hein. Ça, c'est vraiment les termes étatiques. Lui, il dit, moi, tous les jours, je vis avec cette mort, en fait. C'est quelqu'un qui vit avec une mort, il est hanté par une mort. Il se le reproche tous les jours, et quand il le dit, lui, quand elle le dit, elle, c'est impossible d'en douter, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui vit avec la mort, et il se sent tellement encore responsable de cette mort, faute de coupable, parce que coupable, c'est vraiment les mots de l'État. Lui, il se sent tellement responsable de cette mort qu'il veut surtout pas en infliger une autre. En tout cas, quand il commet ces faits-là, quand il s'évade de la prison de Moulins, s'il y a bien quelque chose qu'il veut pas faire, c'est tuer qui que ce soit d'autre, parce qu'il est suffisamment occupé tous les jours à se promener avec la mort qu'il a donnée un jour, accidentellement. Et après, bon, elle finit par quand même défoncer ce truc. Elle finit par défoncer ce truc insupportable aussi des procureurs, qui est de faire croire que les aménagements de peine, ça existe. Que quand on met 10 ans, en fait, on en met 5. Que quand on en met 20, en fait, on en met 10.
Et là-dessus,
Elle
pour le coup,
dit.
elle est bien placée pour le dire, parce que c'est elle.
Qui fait les demandes de remise de peine pour Christophe, c'est elle qui plaide pour lui quand il s'agit d'essayer de gagner ça.
Contrairement à d'autres qui le font en visioconférence.
Contrairement à certains qui se permettent de parler alors qu'ils sont pas là quand il s'agit de le faire. Elle a dit, voilà, ça c'est une fable pour la plupart des prisonniers, et en plus, c'est vraiment une fable pour Kider, parce que Kider, il a été DPS les trois quarts du temps où il a été en prison, il a été à l'isolement la moitié du temps où il était en prison, c'est un type, il a jamais eu l'occasion ni de faire des études, ni de se former, ni de travailler, quoi. On lui a toujours interdit de faire ça. Donc c'est une fable complète la plupart du temps, mais alors en plus pour lui, c'est plus qu'une fable, c'est un mensonge pur et simple. Et après, bon, elle fait ce truc aussi qui est de donner une idée du temps, en fait. Juste ce truc tout simple de dire, mais le type que vous avez en face de vous, il va sortir aujourd'hui, avant même que vous le condamniez, il va sortir en 2032, quoi. Ça veut dire quoi, 2032, en fait? Ça veut dire que moi-même, moi, Delphine Boiselle, jeune avocat de Pimpante, je serais déjà en train de penser à la retraite à ce moment-là, quoi. La plupart des gens que j'ai en face de moi, ils auront fini de payer les crédits sur leur maison, leurs enfants, ils auront fini leurs études. Ce truc qu'on se tue à dire que 20 ans, c'est 20 ans, c'est-à-dire 20 ans, c'est la vie de quelqu'un de 20 ans. Enfin, on est dans des proportions qui sont inimaginables et dont on ne peut même pas donner
La
la
substance
consistance,
et
en
la
fait. C'est
consistance.
impossible
Et
d'imaginer la
ce
consistance.
qu'empêche systématiquement les cours d'assises et les tribunaux, et même les tribunaux correctionnels, et même toutes, enfin les centaines d'années de prison qui sont distribuées quotidiennement dans tous les tribunaux de France, qui oublient et qui font en sorte que tout le monde oublie et transforme en chiffres, en années de prison, des faits qui sont condamnés par sa société, par son code pénal et par ceci et cela. On oublie ça, donc elle essaye de le rappeler à ce moment-là. Évidemment, c'est pas évident. Évidemment, à cet endroit-là, qui l'entend?
Ouais, et donc, et voilà, elle dit, en plus, par ailleurs, ces histoires de conditionnel et de machin et de nanin, ça concerne que des gens qui ont des dates de libération palpables. Et moi, ça m'a vachement frappé, ce mot-là, en fait. Elle a dit, là, on parle de quelqu'un pour qui c'est absolument pas palpable ce que c'est une libération. C'est quelqu'un qui va être libéré dans 20 ans, c'est-à-dire, c'est comme si on disait un fœtus. Tu sais, dans 20 ans, tu seras à la fac. Enfin, c'est aussi palpable que ça, en fait, pour lui. Bon, voilà. Et après, donc, elle rappelle que non seulement il va sortir en 2000, je sais pas combien, avant même qu'on le condamne, et du coup, elle dit, bon, donc, messieurs les procureurs, là, vous êtes entre 20 et 22 ans. Donc, entre 20 et 22 ans, ça veut dire 2057 ou 2059, quoi.
Elle
C'est-à-dire
rappelle
qu'on...
la date précise.
Ouais, elle dit même le 13 avril, je sais plus combien. Enfin, et effectivement, comme il n'y a pas de remise de peine pour des gens comme ça, c'est la vérité. 2059, ça veut dire que Christophe, il aura 80 ans. Enfin, on parle de trucs
Et
qui
que la
sont.
peine qui va se prendre pendant ce procès n'est pas une peine qui, de toute façon, en plus au-delà de tout ça, serait confusionnable avec quoi que ce soit. C'est une peine qui ferait, de toute
Voilà.
façon.
Et donc, il a fini par dire. Cette chose qui est aussi tellement vraie, tellement pénible à chaque fois qu'on assiste à un procès, c'est que la justice, en fait, c'est pas une balance. C'est-à-dire, c'est toujours présenté comme ça, là, dans les trucs métaphoriques, machin, comme si c'était une balance. Et elle dit, mais la justice, c'est pas une balance entre deux souffrances, qui seraient d'un côté la souffrance des gentils, comme ça, et d'un côté la souffrance des méchants, quoi. Il s'agit
Des un peu
pas.
moins gentils, elle
Et des
dit.
un peu moins gentils, il s'agit pas du tout de faire des équivalences de souffrance. Enfin. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier ça? C'est-à-dire comment tu peux remplacer une souffrance par une autre souffrance? Comment tu peux remplacer une mort par une autre mort? Qu'est-ce que c'est que cette comptabilité morbide qui voudrait que si j'ai souffert, tu dois souffrir en retour et tu dois souffrir un peu plus que moi, mais c'est l'État qui s'en charge? Je dis, mais ça, non seulement c'est monstrueux, mais en plus c'est pareil, c'est un mensonge qu'on nous fait à nous tous, vraiment. Et elle dit, en plus, par ailleurs, quand bien même ça, on l'accepterait. En l'occurrence pour Christophe en 99 quand il se fait juger pour une mort accidentelle, parce que lui il l'a vécu comme ça et il l'a re-raconté aujourd'hui, on en parlera un peu plus tard, il l'a re-raconté aujourd'hui, il l'a vécu comme ça, il n'a pas voulu tuer cette personne, il l'a tué, il s'en veut tous les jours, il a pris 30 ans pour ça quand le ministère public en réclamait 20, ce qui est en plus hallucinant. Elle dit voilà, bon bah ce jour-là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de justice, quoi. Vous pouvez pas nous raconter que ce jour-là, quand on lui a mis à 30 ans, il y a eu un acte de justice qui s'est passé. Donc quand l'avocate générale se permet de dire qu'il est le seul responsable de sa condition de prisonnier, elle dit non, c'est la justice qui est responsable de ça. Enfin, on a mis 30 ans à quelqu'un, alors que peut-être 20, il aurait pu imaginer les faire. Et même, il était peut-être même prêt à les faire. Comme il nous a dit aujourd'hui, moi, ça y est, je les ai fait, mes 20 ans, là. Je suis à un an de mes 20 ans. Je vous les ai donnés, j'ai accepté de vous les donner, mais là, maintenant, c'est terminé, il faut arrêter. Là. Voilà. Je pense à peu de choses près pour... pour Delphine, c'est ça. Elle finit quand même en disant, en s'adressant à nouveau au juré, et en disant que c'est les magistrats d'un jour, mais que les magistrats d'un jour, comme les magistrats de toujours, il faut quand même qu'ils se rendent compte que quand ils mettent des peines de prison, ils condamnent quelqu'un à vivre en prison, et que faire semblant de pas savoir ce qu'est la prison, ou plutôt d'ignorer, parce que la plupart des jurés, j'imagine, ignorent ce qu'est la prison, même en fait la plupart des jurés ignorent fatalement ce qu'est la prison.
Parce qu'ils ne peuvent pas,
prison, peuvent pas avoir de casier judiciaire. Donc voilà. Bon, si on condamne quelqu'un à quelque chose, il faut connaître le quelque chose. Et en l'occurrence, le quelque chose, c'est un enfer. Du coup, quand on met 20 ans à quelqu'un, quand on condamne quelqu'un à passer 20 ans en enfer, il faut peut-être avoir une toute petite conscience de ce qu'est l'enfer. Et elle finit par dire cette chose très juste que nous aussi on a toujours dit. C'est que si les conditions de détention s'améliorent, comme le prétend l'avocat général, dans sa grande morgue dégueulasse et rougeaude, si les conditions de détention s'améliorent, c'est uniquement grâce aux combattants de l'intérieur. Et les combattants de l'intérieur, c'est des gens comme Top, c'est des gens comme Kider, c'est des gens comme les révoltés de Fleury des années 80, c'est les gens qui ont brûlé les prisons, c'est les gens qui sont évadés de prison, et c'est les gens qui hurlent à longueur de temps que... Il faut que ça cesse, d'une manière ou d'une autre, soit en s'évadant, soit en brûlant leurs cellules, soit en attentant à leur propre vie, soit en tailladant un surveillant,
soit en revendiquant collectivement,
soit en le revendiquant à plusieurs, soit en quoi que ce soit, mais en tout cas tous ces gens qui disent « ça suffit, maintenant c'est terminé, on peut plus subir ça », ou en tout cas qui essayent de montrer au reste de la société que ça existe dans leur propre pays et que sous ces couverts de grande démocratie, en fait, on a affaire à la barbarie la plus dégueulasse. C'est grâce à des combattants comme ça que la prison l'a changé. Ça n'a jamais été grâce à des avocats généraux qui se prennent pour des nouveaux bas d'inter ou qui nous racontent des histoires à la con. Ça a toujours été parce qu'il y a des gens qui se battent à l'intérieur. Donc ça, c'était Delphine. On va être un peu loin sur cette histoire parce qu'on a eu affaire à deux vrais avocats et des gens qui parlent du réel enfant. C'est comme si on avait eu une petite fenêtre sur un réel vécu par des personnes. Que ce soit dans le box ou dans leurs conditions habituelles, on a eu affaire à des gens qui parlent de la réalité.
L'autre fenêtre qu'on a, c'est qu'on aura ces derniers jours, celle portée par les accusés eux-mêmes, quand ils essaieront d'arracher des moments de discussion et des moments de parole où ils pourront raconter vraiment ce qu'ils ont vécu, on en parlera plus tard. En attendant, mercredi après-midi, c'est Bernard Ripert qui prend la suite de Delphine Boisel en prévenant d'emblée la cour et les jurés qui va être long. Voilà. Et qu'il peut bien se permettre de prendre 4 heures de leur temps et que sa plaidoirie va durer un petit peu. Il commence par dire que l'audience est devenue sereine au fil des temps. Qu'il avait prévu de commencer ce procès, et il a commencé ce procès, beaucoup plus en rupture. C'est-à-dire que dès le début, il a posé un rapport, pas habituel, rarissime dans les cours d'assises, où il se place en adversaire résolu de la machine pénitentiaire, de la machine judiciaire et de la société qui vivent de ces machines, de ces deux machines-là. Il s'est posé en adversaire de ça, pas par fanfaronnade, pour appuyer ce que défend Christophe dans son évasion et pour appuyer ce que tu disais tout à l'heure, ce que défendent des centaines et des milliers, sont toujours défendus des centaines et des milliers de prisonniers contre leur enfermement. Et il s'inscrit là-dedans. Et il a inscrit sa manière d'aborder ce procès là-dedans. Il l'a dit à la presse, il l'a dit dès le début. Et
on peut redire ce qu'on disait tout à l'heure à l'inverse, c'est-à-dire qu'on sait, et on l'a vu, que Christophe, quand Delphine parle de lui, il se reconnaît dans ce qu'a dit. Et que quand Ripper fait une plaidoirie de 4 heures où il défonce l'État, la police et la justice, Christophe, il a un sourire les trois quarts du temps parce qu'en fait, ce type exprime ce que lui a essayé de dire d'une autre manière par ses actes. C'est quelqu'un qui a choisi ses avocats, il les prend pas du tout par défaut, il sait très bien à qui il a affaire quand il demande à ses gens de le défendre. Et il est content de ce qu'il entend de lui, et il est content de ce qu'il a fait, de ce qu'il entend de ce qu'il a fait. En tout
cas. Il dit que les cours d'assises sont faites pour endormir, que le ronron de cette machine-là, c'est fait précisément pour faire oublier tout ça, de manière générale. Et puis, dans son déroulement quotidien, c'est fait pour qu'on se laisse porter, en fait, par les débats, par le quotidien et tout. Et ça arrive à tout le monde. Ça nous arrive à nous aussi, quand on se retrouve dans cette salle, à regarder ce qui se passe à cet endroit-là. On se laisse finalement tous les jours dans cette espèce de ronron, comme les jurés qui se retrouvent tous les jours à faire ça, dans une espèce de
Et
boulot
on
pendant
baille.
3 semaines, et on baille, et on s'emmerde par moment, et les accusés s'emmerdent profondément par moment éructent, et par moment se taisent, par moment s'endorment, voilà, comme nous dans la salle. Voilà. Et il dit, bon, j'espère que j'ai accepté à un moment de me laisser porter un peu aussi, pendant ce procès. Il dit, parce qu'on nous a dit qu'il fallait que l'audience soit sereine, on nous a dit qu'on serait écouté, etc., etc. J'espère que c'est pas un piège dans lequel on est tombé et qui se terminerait lors de votre condamnation. Et il s'adresse au juré en disant ça. Et puis il s'adresse au juré, mais il s'adresse au juge et il s'adresse à cette société en général. Et c'est ce qu'il fait dans toute sa plaidoirie, où il refuse de dissocier systématiquement ce que font... Les juges à cet endroit-là, de ce que feront les jurés le lendemain, de ce que fait la police le reste du temps, et de ce que fait, le capital, sans dire le gros mot, là en l'occurrence. Il n'a pas besoin de le dire le gros mot, parce qu'il est partout dans tout ce qu'il raconte à cet endroit-là. Il dit votre loi, votre justice, et il dit tout le temps votre. Alors, ça, c'est quand même c'est flagrant et ça fait du bien d'entendre ça à cet endroit-là. Votre loi, votre justice ne sont là que pour protéger des privilégiés. Hein. Et quand monsieur l'avocat général demande s'il est si difficile de respecter le contrat social, il répond, ben oui, la question est de savoir pour qui c'est difficile de le respecter. Qu'il n'y a pas de violence légitime de cet État, parce que précisément c'est cet État qui fixe la légitimité de cette violence. Donc c'est un petit peu compliqué d'accepter cette violence de l'État. Et que la seule légitimité que lui reconnaisse, et que reconnaît Christophe, et que reconnaît une bonne partie de la salle à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est celle de s'opposer à la violence de l'État. Et c'est ce qui s'est passé lors de cette évasion. Il s'adresse directement au proc, aussi, non-stop, pendant sa plaidoirie, en les attaquant systématiquement, en les tournant en ridicule, et en les agressant, en disant que vous avez bafoué même la devise de cette République là, que vous prétendez défendre, en vantant en fait les vertus d'un pétinisme d'État, quoi. Christophe Kider, il est en prison depuis 95, voilà. Et c'est des gens avec des robes rouges, là, comme vous, qui êtes là, et un cœur noir, hein, qui ont fait ça, et qui aujourd'hui vous demandent à vous, les jurés, là, de l'envoyer jusqu'en 2057 en prison. Mais qui sera encore vivant? Il reprend ce que dit Delphine le matin. Qui sera? Et il le pousse un peu plus, il le tourne plus méchamment. En gros, c'est qui sera encore vivant pour voir Christophe sortir de prison le jour où un surveillant, et ça c'est... truc, viendra taper à sa porte et dire « Kider, libéré ».
Et Kider, il aura 80 ans, il aura deux béquilles et il fera « Ah, merci ».
Voilà. Parce que Kider, il revient là-dessus, Christophe, il est détenu dans les prisons des prisons. Et là, il décrit les QI, les zones de mort lente. Il leur dit qu'ils veulent ôter tout espoir de vie. Ils veulent le voir mourir en prison, ils veulent le tuer à petit feu, mais il leur dit qu'ils n'y arriveront pas. En fait. Et c'est ça ce qui claironne depuis le début du procès, et c'est ça ce qui fait que ce procès est insupportable pour la justice, et qui fait que les procs demandent des peines aussi fortes, c'est parce que précisément, sa force de vie, là, son besoin de liberté, il sera toujours plus fort que vos lois, vos prisons, que vous. C'est ça ce qu'il leur dit, quoi. Et vos balles judiciaires et policières, elles seront sans effet sur lui. Parce qu'elles ne l'atteindront pas, il est protégé par un gilet pare-balles mental contre ses agressions. Il se l'est fabriqué, ce gilet mental. Et si vous lui en voulez tant, voilà, c'est pas pour l'évasion, les faits, hein, c'est pas pour les faits de cette évasion. Parce qu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de violence, quoi. C'est pour le symbole qu'elle est, cette évasion. Et c'est celui de la lutte contre la prison. Cette prison que vous aimez tant, vous, là, et qui est la protection éternel des privilèges et des privilégiés. Donc avant de requérir des années de prison, il leur demande juste de s'interroger simplement, connement, sur le problème de la délinquance, à son origine. Bêtement, un peu faussement naïvement, en disant, mais est-ce que vous pouvez, vous, là, accepter de donner des années de prison, voilà, en prétendant résoudre le problème de la délinquance, sans vous être interrogé une demi-seconde sur d'où elle venait, cette histoire de délinquance-là. Et il se cite lui-même en tant que jeune avocat, qui, à l'époque, déjà, n'avait pas été surpris de voir que c'était le fils du maçon qui volait le bijoutier et pas le fils du bijoutier qui volait le maçon. Alors, il dit, remplissez-les vos prisons, faites-les craquer,
il y aura toujours plus de délinquants et elles vous pèteront à la gueule ces prisons. Voilà. Là, il résume, il résume ce qu'est le sort fait aux prisonniers et le fait qu'il y aura toujours des gens qui se révolteront dans ces endroits-là et qu'ils auront beau faire ce qu'ils veulent, ils le feront pas. Combien même ce jour-là, ils tuent Christophe, ils essayent de tuer Christophe Kider, Omar aussi, et tous les prisonniers qu'ils enferment pendant des peines infinies. Parce que c'est quoi l'intérêt sadique et barbare de condamner un homme à 30 ans de prison quand le procureur en demande 20? Là, il revient sur l'histoire qui a conduit Christophe dans sa longue peine de ses 18 ans, là, ce fameux truc de 99, où, à l'époque, le proc, dans sa mansuétude, avait demandé 20 ans pour ce... Parce que Christophe définit comme un accident après un braquage, voilà, un type qui a perdu la vie, effectivement. Et que là, le jury s'était senti porté par un juge tueur, un autre encore,
un vengeur,
de lui donner ce qu'il qualifie de peine extravagante, avec des tas de guillemets, de 30 ans. C'est-à-dire que le proc avait demandé 20 ans, mais le jury avait même surpassé tout ça. Et ça arrive en cour d'assises, hein, ça arrive tout le temps. Et il dit que, en fait, c'est cette peine extravagante, c'est ce truc-là, là, c'est ça qui déclenche, non pas, là, pour le coup, la dégringolade de Christophe Kider, hein, qui déclenche son combat pour la liberté qu'on lui vole, en fait. Et il a fait 18 ans, ça suffit. Hein, et il n'est pas question, donc, qu'un jour de l'an 2050, à 80 ans, il se retrouve à sortir en faisant « Pouet, pouet, tralala, merci, je suis libéré. » Il ne veut pas vous donner toute sa vie, dit-il encore une fois. Il estime à raison que vous lui en avez déjà assez volé. Et la prochaine fois, et il leur redit ça, c'est quelque chose qu'il a dit plein de fois pendant le procès, et qu'il a, il le réaffirme, qu'il redit encore ce qu'a dit Delphine le matin. La prochaine fois, il est plus disposé à se faire tirer dessus comme un faisan
d'élevage. Parce qu'en fait, voilà, Christophe, et encore une fois, hein, quand Ripper dit ça, il n'est pas en train de confisquer la parole de qui que ce soit pour se faire un discours, hein, enfin, il n'est pas en train de... C'est pas un type qui se branle sur la vie de quelqu'un d'autre, c'est ce que Christophe veut dire lui-même, hein, enfin, il n'y a pas de détails là-dessus. Hein. Et voilà, donc il redit ce truc fondamental, mais que Christophe va dire un peu plus tard, c'est que il s'est fixé une limite... jusqu'à présent, qui était de ne pas prendre la vie de quelqu'un d'autre et de ne pas faire œuvre de violence contre un autre être humain. Quand bien même ce serait des gendarmes, des policiers ou des matons, hein, c'est pas le problème. Lui, il est prêt à mourir, mais il n'est pas prêt à tuer, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il peut arriver à ce truc de démonter. Et alors là, on est obligé de le dire quand même, on a eu un travail remarquable d'avocat. On n'a pas du tout affaire à un idéologue, on a affaire à quelqu'un qui travaille, et qui travaille des dossiers. En fait, Christophe, contre lui, il a 19 accusations, et il a démonté une par une toutes les accusations, pour finalement en retenir qu'une seule, qui est l'évasion. Et il ne l'a pas fait comme un effet de manche, pour le coup, il l'a fait comme quelqu'un qui démonte un dossier. Du coup, voilà, il dit, qui est-ce qui a fait rentrer le matériel, en fait? C'est quoi cette histoire de faire rentrer du matériel en prison? Kider, lui, il a jamais dit que c'était les femmes qui avaient fait rentrer le matériel. Il a fini par dire, moi j'assume ma part, et après c'est à chacun de parler pour ce qu'il a fait dans son histoire, mais en tout cas, moi j'ai jamais dit que c'était les femmes, et par contre j'ai toujours impliqué une complicité intérieure, j'ai toujours dit qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur qui devait faire monter le matos. Lui, il a jamais voulu s'évader du parloir. Ça n'a jamais été prévu. Christophe, il n'a jamais voulu faire péter des portes et prendre des matons en otage devant sa propre fille. Enfin, c'est pas un truc, on voit très bien c'est qui le gars, c'est pas un truc qu'il voulait faire. Donc s'il a été obligé de faire ça, c'est bien parce qu'il y avait une complicité intérieure qui a fini par se déballonner. Complicité intérieure, ça veut dire maton, hein. Ça veut pas dire autre chose. Et ce week-end, on a vu exactement la même chose. Ils ont d'abord commencé par impliquer les proches, ils ont mis la sœur
pour l'évasion
de Redouane. Bonne route à toi encore, hein. Ils ont commencé par impliquer sa mère, son cousin, sa femme, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et tout, et là ils sont bien obligés d'admettre petit à petit que finalement c'est peut-être des matons qui ont fait rentrer le truc, parce que c'est la plupart du temps des matons qui sont complices de ce genre d'acte. Et donc alors, là, ils disent,
c'est pas possible de faire rentrer ça, c'est pas possible, le règlement intérieur interdit de faire ce genre de choses-là, quoi.
Et il dit, ouais, bah oui, le règlement intérieur interdit de faire monter des explosifs en détention, mais le règlement intérieur interdit aussi de faire rentrer des opinels au parloir pour se faire une petite raclette, comme l'ont fait les deux surveillants. Et lui, il dit, mais moi, j'en veux pas du tout au surveillant d'avoir voulu se faire une raclette. Moi, je dis, vous vivez en enfer, vous êtes en enfer, comme les autres, ils sont en enfer. Et au bout d'un moment, il faut essayer d'aménager son enfer. Et donc, aménager son enfer, ça veut dire contourner un règlement. Et contourner un règlement, c'est ce que les matons, ils ont fait en rentrant des couteaux. C'est ce que Kider, il a fait en faisant rentrer des explosifs. Et normalement, il y avait un maton qui devait rentrer des explosifs aussi.
Dans sa cellule.
Donc là, il souligne encore à nouveau le fait que l'administration pénitentiaire a écrasé les matons qui s'étaient permis de faire rentrer une raclette, des patates et un laguiole en détention. Eux, ils se sont fait fumer, ils n'ont pas du tout été reconnus, voire ils ont été incriminés par l'administration pénitentiaire pour avoir osé faire ça, comme si un laguiole permettait une évasion. Et il dit, en fait, voilà, vous êtes dans la même comédie que nous, c'est-à-dire que vous vivez en enfer par des gens qui vous considèrent comme des merdes. Et là, aujourd'hui, la justice fait semblant de vous rendre justice et de vous reconnaître comme des victimes et tout, mais demain, elle vous méprisera à nouveau, parce qu'en fait, vous êtes juste des chiens de garde. Et la justice vous considère comme ça. Nous, on vous considère pas comme ça, en fait. Christophe, il vous a jamais considéré comme des obstacles ou des, je sais pas quoi, des chiens de garde ou des machins. Lui, il vous a parlé humainement et vous a rassuré au moment où vous aviez peur de mourir. Vous a dit, mais t'inquiète pas, moi, je veux pas te tuer, quoi. Contrairement à l'administration pénitentiaire qui, elle, se permet de dire que s'il y a une évasion, c'est à cause d'un laguiole qui a été rentré par des matons pour aménager l'enfer. Ce qui est quand même... bon. Voilà, et donc il continue après à démonter un peu l'histoire. Il dit, bon, il n'y a pas d'association de malfaiteurs, il n'y a pas de bande organisée, en fait. Il y a deux mecs qui s'évadent. Et deux mecs qui s'évadent, c'est pas une association de malfaiteurs, c'est pas une bande organisée, c'est des actes en réunion. Le fait d'être 1 plus 1, ça forme une réunion, mais ça forme jamais une bande organisée.
Quant au rapport de Christophe et de Sylvie à ce moment-là, il dit c'est ce qu'on appelle un couple.
C'est ça. Ah, et voilà. Eugène et Nadia, c'est quoi? C'est pas une bande organisée, c'est un couple.
C'est un couple.
Et Christophe et Omar, c'est qui? C'est des potes. Donc des potes qui s'évadent, bon, bah des potes qui s'évadent, d'accord, c'est une réunion, allez, admettons. Après, il y a les dégradations, parce que donc ils sont inculpés pour dégradation. Alors là, il a fait encore ce truc hyper drôle. Il dit, mais bon, dégradation, ça veut dire...
Vouloir
détruire quelque chose. Vouloir abîmer du matériel. Mais en fait, Christophe et Omar, ils n'ont pas voulu dégrader du matériel. Ce qu'ils ont fait, c'est ouvrir une porte. Ils ont demandé, ouvrez-nous la porte. On leur a dit, non, on ne vous ouvre pas la porte. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit la porte. Mais ils ne voulaient pas porter atteinte à la porte, ils voulaient l'ouvrir. Donc, il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de volonté de dégrader quoi que ce soit.
Et c'est assez drôle, parce que ça tourne en ridicule la formulation juridique des faits qui sont reprochés, qui découpe cette action de l'évasion en faits successifs, parce que ça c'est incriminé à tel endroit du code pénal, ça c'est incriminé à tel endroit du code pénal. Là, c'est ce qui se passe évidemment dans tous les procès, c'est toujours ça, hein. C'est réduire des faits et tout un bordel humain, le réel, en un ensemble de petites choses qu'on pourrait poursuivre. Et là, du coup, il prend, là en l'occurrence, ces petites choses, parce que ça c'est deux portes qui sont détruites, hein. Il prend ces petites choses et il tourne complètement en ridicule leur formulation juridique. Là-dessus, il y a le... qui est dans le même registre, c'est dans ce même retournement de ridicule de formulation. Il dit, voilà, on accuse Christophe Kider et Omar Top d'avoir séquestré des gens. Il dit, bon, très bien, on va pas se battre sur la séquestration, alors que le mot est pas forcément le meilleur terme. C'est pas vraiment une séquestration, ils restent 5 heures dans une voiture ensemble, donc très bien. Notamment, monsieur, un homme qui était là avec un grand-père qui est là avec son petit-fils. Et il se retrouve à prendre la voiture du mec, embarquer le grand-père, et embarquer avec lui son petit-fils. Mais ça les emmerde d'embarquer avec lui le petit-fils. Ils n'ont pas du tout envie d'embarquer son petit-fils à ce moment-là. Ils décident juste de ne pas laisser un gamin de 3 ans seul au bord de l'autoroute, dans la nuit et dans le froid.
Et il dit, c'est con. Pour ça, ils sont inculpés pour enlèvement de mineurs.
Et pour ça, ils sont inculpés pour enlèvement de mineurs. Ce qui est un truc énorme, qui est hyper lourd, en fait. Et il dit juste, mais c'est marrant parce que s'ils avaient décidé de laisser ce gosse sur le bord de l'autoroute, là, ce qui aurait été autrement plus salaud, hein, ce gosse qui s'est endormi au bout de 10 minutes dans la voiture et qui a absolument rien vu de cette histoire et de tout ce qui se passait quand même, hein. Bref, il l'aurait laissé sur le bord de la route. Il n'y aurait pas eu, dans ce fameux code pénal où on va chercher des inculpations, il n'y aurait pas eu là, de qualification pénale pour transformer cet abandon d'enfant sur le bord de l'autoroute, parce qu'ils n'en étaient pas juridiquement responsables de cet enfant, donc ils ne pouvaient pas l'abandonner. Bref, c'est le ridicule. Sur des choses plus sérieuses, c'est l'atteinte au personnel, quoi.
Ouais, alors l'atteinte personnelle, ça c'est pareil. Il y a quand même 11 matons qui se prétendent victimes de Christophe et Omar, alors qu'en fait, Christophe et Omar, ils ont pris en otage 2 matons. Et en l'occurrence, il y a 11 matons qui se portent partie civile pour. Alors je sais même plus bien c'est quoi la qualification du truc, mais c'est les explosions. Les explosions dans la prison leur ont porté préjudice, quoi. Et du coup, il me dit, mais ils sont où en fait ces gens? Ah, c'est ça, préjudice, ITT, je sais pas
oui.
combien de jours ouais, d'ITT.
Il attaque le fait que tous ces gens aient des ITT. Du coup, il leur dit, mais en quoi ces gens ont des ITT?
D'où t'étais caché derrière deux murs, la porte a sauté, t'as jamais été touché par cette porte. Qu'est-ce que c'est que cette ITT? C'est quoi cette histoire encore? Et il dit, en fait, ces gens-là, notamment Cavala et Fenaillon, les deux directeurs, là, ils ont été effectivement traumatisés par cet événement, mais s'ils ont été traumatisés par cet événement, c'est parce que l'AP les a traités comme des merdes à la suite et a dit que c'était de leur faute. Donc en fait, ils n'ont pas été traumatisés par les explosions, ils ont été traumatisés par le traitement administratif
de leur histoire.
De leur histoire, et comment depuis ils sont placardisés, en fait. Il dit voilà, donc en fait, vous êtes des victimes de l'AP, vous n'êtes pas des victimes de Christophe et Omar.
C'est pas eux de régler ça.
C'est pas si mal, en fait, ça les remet à leur place par ailleurs. Et là, c'est pareil, hein, ça, il l'appuie sur des trucs, mais on va pas tout développer. Mais à un moment, il fait une citation de Cavala lui-même, c'est-à-dire le directeur qui a ouvert les portes, et il dit « Au niveau personnel, ça va. Je m'en suis plutôt pas mal remis et tout. Par contre, au niveau professionnel, j'ai été pas mal abasourdi par les déclarations de certains surveillants, ce qui m'a été caché. » Bon, ce qui m'a été caché, il faut qu'on l'explique. Ce qui m'a été caché, c'est qu'il y a M. Schwerz, le courageux, qui s'est permis de tirer sur Christophe, caché derrière une porte blindée. En fait, il tirait pas sur Christophe, il tirait sur ses collègues. Il s'est permis de tirer à l'intérieur, à l'aveuglette, sur ses collègues. Et, donc Cavala, il dit, voilà, moi j'ai été abasourdi par les déclarations de certains surveillants. Je me suis rendu compte de ce qui s'était passé vraiment à ce moment-là. Et en fait, j'ai eu très mal de ça. J'ai halluciné que des gens soient capables de tirer sur leurs propres collègues, alors que c'est tous mes petits, tu vois, comme osait le dire l'autre Winter. Donc voilà, une fois de plus, en fait, on est dans des préjudices par ricochet, exactement de la même manière que les femmes de prise en otage, ils sont touchés par ricochet dans cette histoire. Les femmes, elles n'ont pas été victimes de l'évasion. On se rappelle de Madame Dubois qui mettait son escabeau à 8h30 du soir pour fermer la porte à son mari, dont elle croyait qu'il était en train de découcher, quoi. Donc elle était là en train de mettre l'escabeau derrière la porte, alors que son pote, il était pris en otage. Et quand son mari l'a appelé pour dire « je suis pris en otage par les évadés de Moulin ».
Non, c'est fini. Tout s'est bien passé. Je suis libéré.
Je suis libre.
Je suis libre.
Comme ça.
Elle a regardé la télé et là, elle a badé.
Voilà. Et là, elle a commencé à flipper. Après, les gendarmes sont venus chez elle, l'ont traité d'hystérique. Le lendemain, il y avait des journalistes chez elle qui lui disaient « ah, là, là, là ». En fait, elle a été traumatisée par un truc, c'est la police, la gendarmerie et les médias. Elle n'a pas été traumatisée par la prise d'otage de son mari, qui lui, par ailleurs, l'a très bien vécu en plus, qu'il a vécu comme vraiment une aventure passionnante, qui s'évertue depuis à raconter à la télé à chaque fois qu'il y a un reportage dégueulasse sur cette histoire. Donc voilà, il démonte tous ces trucs-là les uns après les autres. Après, il démonte le truc le plus gros, qui est le plus scandaleux par ailleurs, c'est l'histoire des tentatives d'homicide. Là, en fait, je pense qu'on l'a déjà beaucoup fait avant la démonstration de comment, évidemment, il n'a pas cherché à tuer des matons, mais il a juste intimidé des gens qui, eux, par ailleurs, étaient en train de lui tirer dessus en le visant. Donc ça, c'est les deux matons. On va vraiment passer vite là-dessus, parce qu'il l'a démonté, on l'a démonté, on le redémontera. C'est un scandale absolu, ce truc de tentative d'homicide.
Mais il l'a vraiment bien démonté.
Ah, mais là, il n'y a pas. Hein, c'est Christophe, c'est un mec qui s'est tiré. À 8 mètres devant lui, il y avait un type avec un fusil à lunettes. Il a tiré à 2 mètres à côté. S'il voulait le tuer, il pouvait le tuer, il a décidé de l'intimider. L'autre mec, que soi-disant il voulait tuer, en fait, quand il a fait sauter une porte, il lui a dit « cache-toi, je vais faire sauter la porte ». Après, il l'a croisé yeux dans les yeux à 5 mètres de distance, dans le chemin de ronde. S'il voulait le tuer, il avait qu'à le tuer à ce moment-là, il l'a pas fait. Il n'y a aucune tentative d'homicide dans ce dossier, c'est sûr et certain. C'est dans le dossier, c'est dans les débats, c'est dans les témoignages. Ça, il n'y a même pas besoin spécialement de s'attarder là-dessus. Donc en fait, sur les 19 trucs, lui, il en reconnaît deux. Il reconnaît les séquestrations sur les gens sur les gens pris en otage avec leur voiture.
En fait, 4 personnes.
Hein, oui, 4 personnes. Et puis, tu prends pas une voiture sans le mec qui va te balancer à peine t'as pris la voiture. Ils ont fait ça par... Et ils n'arrêtent pas de s'excuser auprès de ces gens par ailleurs. Donc, mais voilà, Ripper, il reconnaît ces délits-là, parce que c'est des délits constitués en fait et en droit. Hein. C'est ce truc de « est-ce que c'est constitué en fait et en droit ?» En l'occurrence, oui, ils ont volé des voitures avec des gens dedans. Il n'y a personne qui conteste ça. Et après, il y a la dernière. Du coup, en fait, il dit « en fait, tout ce qui reste, dans toute cette histoire, c'est une évasion. Ça, c'est un délit maintenant, à l'heure actuelle. En 2004, ça a été défini comme un délit. Avant, on avait le droit de s'évader en France. En Belgique, on peut s'évader. En Suède, on peut s'évader. En Espagne, on a le droit de s'évader. L'évasion, c'est pas un délit dans beaucoup de pays d'Europe, en soi, hein, le fait de s'évader. En France, maintenant, c'est devenu un délit. On le sait d'autant plus que Christophe a pris 3 ans, il y a peu de temps, pour son évasion de l'Annemezan.
Pour sa tentative
d'évasion de l'Annemezan.
Il est resté dans sa cellule. Hein.
Il avait un bonnet sur la tête et un barrossier. Il a pris 3 ans pour avoir scié un barreau et trouver une petite route vers la sortie, peut-être éventuellement. Quoi. Donc voilà, maintenant, c'est devenu un vrai délit, l'évasion. Et ça, bien sûr, il le reconnaît qu'il y a eu un délit.
C'est le seul.
En l'occurrence, c'est le seul. Ils ont fait péter 2 petites portes, machin. Ils ont fait péter les portes de la prison. Ils ont essayé de sortir de cette prison. Bon, là, Ripper, il fait son petit truc bien rigolo qu'il aime bien faire une fois de temps en temps. Il dit, bon, ben voilà, ils ont fait sauter 2 portes de la prison. Mais qui n'a jamais rêvé de faire sauter toutes les prisons de France, quoi? Qui n'a jamais eu ce rêve de faire sauter des prisons? Là-dessus, il y a l'avocat général. Ils se connaissent depuis pas mal de temps, qui commence à prendre des notes. Et Ripper a dit, mais allez-y, notez mes rêves. Hein. Notez mes rêves. N'hésitez pas à noter mes rêves, madame l'avocate générale. Oui, je rêve de faire sauter toutes les prisons de France. Et alors? Eux, ils l'ont fait, en fait. Eux, ils l'ont fait. Et du coup, c'est ça le truc qui vous fait mal, en fait. Et c'est ça que vous voulez leur faire payer. C'est pour ça que vous réclamez 20 ans de prison. C'est parce qu'ils ont fait une évasion. Et qu'ils ont fait une belle évasion. Quoi. Que cette évasion, elle était réussie. Ils sont sortis de la prison la plus sécuritaire d'Europe. Ils ont ouvert 2 petites portes, comme ça ils ont fait 3 petits trous dans les murs, ils ont blessé personne. Et vous leur avez ouvert les portes en prime, parce que en fait la dernière porte, ils l'ont pas fait sauter, on leur a ouvert. Il dit voilà, ouais, c'est la première fois que volontairement, sous la menace, certes, mais volontairement, on ouvre les portes devant des prisonniers qui s'évadent. Et ça vous fait mal.
Ça fait mal à l'administration pénitentiaire.
Et donc, quand ces portes...
Sur ces personnels d'avoir fait ça. Elle ne peut pas supporter qu'ils aient fait ça, parce que symboliquement, ils ont ouvert cette porte.
Ils ont ouvert la porte.
Et c'est pour ça.
Et du coup, quand ces petites portes sautent, en fait, ce qui vous saute à la gueule au moment où ces portes sautent, c'est la réalité, quoi. C'est la réalité, c'est la vie, c'est la prison. En fait, ce qui a sauté à ce moment-là, c'est... la réalité de ces conditions infernales dans lesquelles on se permet d'enfermer des gens. Et là, ils vous ont fait non seulement un bras d'honneur, mais en plus, ils sont tirés avec un tapis rouge. Quoi. Et ça vous emmerde profondément, et c'est pour ça que vous réclamez 22 ans.
C'est pas pour
des violences sur des enfants, ou un coup de poing dans la gueule d'un grand-père, ou une Renault 19 d'une pauvre dame, que machin. C'est parce que ils vous l'ont fait à l'envers, ils ont réussi leur truc, et ça vous fait trop mal.
C'est pour le symbole qu'on veut les punir. Et il répète, et il martèle, il finit par ça, que l'évasion, c'est non seulement un droit, mais c'est bien plus qu'un droit, c'est un devoir de dignité pour toute personne qui est enfermée.
Et on va finir sur ces belles paroles.